Говорит Москва.
Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau balado du dimanche soir et cette mini-série dont nous diffusons le deuxième épisode. La formule, vous la connaissez, une question avec une réponse pour les plus pressés et une analyse pour les plus intelligents ou ceux qui aspirent à le devenir. La question est dans le titre. Poutine veut-il reconstituer l'URSS ? Pour ceux qui sont pressés de retourner sur Netflix, la réponse est non. Fin du suspense. Pour les autres, nous allons voir que l'affaire se présente de façon assez complexe. Je vous retrouve tout de suite. L'accusation faite à Poutine et à son entourage de vouloir reconstituer l'Union soviétique n'est pas nouvelle et elle est récurrente, surtout depuis les événements d'Ukraine. Quand je parle d'événements, je ne fais pas un euphémisme. J'englobe toute la période qui va de Maïdan en 2014 jusqu'à l'opération militaire spéciale qui se poursuit encore, hélas, aujourd'hui. Les médias mainstream rivalisent d'accusations, d'humiliations, de diffamations et d'assertions souvent irrationnelles contre les Russes, y compris ceux qui n'y sont pour rien, et contre leurs dirigeants, à commencer par le premier d'entre eux, le président Poutine, comme si tout était dans ses mains et qu'il était seul décisionnaire. Tous les mots MOTS, les mots MAUX et toutes les outrances sont permis. Parmi eux, une accusation revient souvent, celle de la volonté de reconstituer l'URSS, dont Poutine n'aurait jamais accepté la disparition. Qu'en est-il ? Il est indéniable que la disparition de l'Union soviétique a été, pour toute la population, un véritable traumatisme. Quand je dis « toute la population », cela va des dirigeants aux simples citoyens. Si certains trouvent que le terme de traumatisme est exagéré, on peut à tout le moins parler de bouleversement considérable. Imaginez un peu. Vous êtes citoyen d'un pays qui, du jour au lendemain, cesse d'exister. C'est-à-dire que l'entité dont vous détenez certains attributs administratifs, le passeport par exemple, eh bien ce pays cesse d'exister d'un coup. Alors que vous n'avez rien demandé, vous devenez le ressortissant d'un pays nouveau qui, dans certains cas, n'existait pas auparavant. Je crois que c'est sans précédent dans l'histoire, qu'on me corrige si je me trompe, mais bien sûr on connaît l'histoire de ces citoyens qui sont devenus les ressortissants d'un pays nouvellement indépendant. Mais connaît-on l'histoire des citoyens d'un pays qui cesse d'exister. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez des cas semblables. Pour couronner le tout, vous avez des individus ou des familles qui se sont retrouvés du jour au lendemain ressortissants de pays nouvellement indépendants alors qu'ils n'avaient aucune affinité ethnique ou religieuse avec ce nouveau pays. Simplement parce que les hasards de la vie ou des épisodes violents ont fait que des gens se sont retrouvés appartenant à un pays qui ne voulait pas ou plus d'eux, sans possibilité parfois de revenir à leur région d'origine devenue un pays à part entière. Ainsi, des Russes se sont, sans n'avoir rien demandé, retrouvés ressortissants du Kirghizistan musulman qui ne les voulait pas nécessairement. Le problème s'est posé avec une acuité différente dans toutes les ex-républiques. On a parallèlement assisté au même phénomène en Yougoslavie, par exemple. Ces démantèlements et ce remodelage massif des frontières ont posé d'énormes problèmes. Ce sont des démantèlements voulus par les États-Unis qui défont les empires pour préserver le leur. Dans certaines républiques, comme les républiques baltes, le traumatisme a été encore plus grand. Pour se venger de l'occupation par Staline après la guerre, les Baltes ont fait et continuent de faire subir aux Russes restés sur place les pires humiliations qui, si elles avaient lieu dans nos pays d'Europe occidentale, mèneraient leurs auteurs devant les tribunaux pour discrimination. Et ne parlons même pas des soviétiques de l'étranger, qui, ayant négligé d'actualiser leur situation après la chute de l'URSS, ont perdu naturellement leur nationalité soviétique et ne sont pas ou plus éligibles à la nationalité de leur région d'origine. Alors, après avoir brossé le tableau du traumatisme subi, il faut se poser la question de fond, à savoir, une nostalgie de l'URSS peut-elle panser les plaies du traumatisme et comment ? Il faut bien comprendre qu'au traumatisme qui a fait suite à la disparition de l'URSS s'est ajoutée une grande arrogance des Occidentaux et en particulier des Anglo-Saxons. À la cessation de l'Union soviétique, on a parlé de la fin de l'histoire. La guerre froide a été considérée par les Anglo-Américains comme gagnée. Or, on aurait pu penser qu'une fois la guerre gagnée, les Anglo-Américains auraient fait régner la paix sur le monde et en particulier sur l'Europe. Certes, c'eût été la Pax Americana, mais la Pax tout de même. Sauf que c'est le contraire qui s'est passé. Les Européens ont oublié que s'ils avaient été préservés de la guerre pendant presque 50 ans, ils le doivent à un certain équilibre des forces. Équilibre qui, du reste, a coûté cher aux Soviétiques. D'ailleurs, cela n'a pas été le cas sur les autres continents, hein, en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Bien, les guerres n'ont pas cessé. D'accord, ça aussi, il faut le garder à l'esprit. À partir de 1991 et même un peu avant, bien tout ça s'est terminé en Europe. Cette espèce de paix, c'est terminé. On commence à voir des conflits éclater un peu partout. Ex-Yougoslavie, puis Ukraine. Pour de nombreux Russes, la chute de l'URSS signifie la fin de la stabilité. Beaucoup vous disent qu'au moins, à l'époque Brejnev, c'était la paix. Au moins, à l'époque, Azéris et Arméniens s'entendaient. Et on ne peut que constater que c'est à ça aussi que les Américains ont mis fin. Ne jamais oublier que certes, l'URSS de Gorbatchev était déstabilisée et contestée. Certes, il y a eu des pénuries et des manifestations, mais le référendum de mars 1991 a donné la victoire à Gorbatchev contre Yeltsin pour le maintien de l'Union. Donc, lorsque les Américains ont fomenté le putsch avec Yeltsin dans le dos de Gorbatchev, cela s'est fait en violation d'une loi approuvée par référendum. Cependant, il y a un autre facteur qui a fait regretter aux Russes le passé soviétique. C'est le comportement des Occidentaux immédiatement après l'indépendance des ex-républiques. Fort de leur entre guillemets victoire, les dirigeants occidentaux se sont comportés de manière odieuse vis-à-vis des Russes. Les États-Unis et leurs vassaux ont fait ce qu'ils savent faire de mieux depuis la Seconde Guerre mondiale, faire régner le chaos en favorisant les mafias. Le résultat a été un chaos économique sans précédent. Il est vrai que l'État soviétique était dans une situation économique catastrophique. Pénurie en tout genre due aux problèmes de production et d'acheminement, monnaie fiduciaire totalement artificielle, importation ruineuse et j'en passe. Problème. Si tout cela est l'œuvre d'une petite élite, c'est à la population qu'a été présentée l'addition. Pour faire simple, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, la population s'est vue contrainte de payer les produits de consommation au prix du marché, alors que parallèlement, on ne versait plus les salaires. Dans le même temps, les citoyens soviétiques puis russes ont découvert qu'en Occident, on vivait beaucoup mieux que ce qu'on leur avait présenté. Bien entendu, les citoyens savaient, en tout cas ceux qui voulaient savoir, qu'on leur mentait. On se souvient des paroles de Solzhenitsyn, « Ils mentent, on sait qu'ils mentent, et ils savent qu'on sait qu'ils mentent ». Fin de citation. Néanmoins, le choc pour les Soviétiques, et pour les Russes en particulier, a été considérable. Donc les Russes, puisque c'est eux dont il s'agit, ont été particulièrement bien disposés à l'égard de l'Occident. Mais les choses ont changé dès lors que les gens se sont assez vite rendus compte, qu'après la Gorbimania qui a accompagné la fin de l'URSS, les Occidentaux ont pillé sans vergogne, si bien que les Russes se sont retrouvés, extrêmement appauvris dans un des pays les plus riches du monde. Pour faire bonne mesure, l'Occident s'est mis à donner des leçons sur un peu tout. Or, les Russes, qui avaient cru à un partenariat égal et raisonnable, se sont sentis, on va dire, floués. Yeltsin a été maintenu artificiellement au pouvoir jusqu'en l'an 2000, ou plus exactement jusqu'au dernier jour de 1999. Alors, pardon de passer un peu comme chat sur braise sur, par exemple, la tentative de putsch du Parlement en 1993 et sur la réélection ubuesque d'un pantin désarticulé et plein d'alcool, même plus en mesure de se tenir correctement en public, mais qui me soit tout de même permis de m'arrêter sur la réélection de Yeltsin en 1996. À qui fera-t-on croire ? Qu'un président alcoolique et malade a pu être reconduit pour un second mandat sans fraude et sans pression américaine. Oui, parce qu'il faut tout de même le dire, les Occidentaux sont tout de même un peu gonflés de hurler à l'ingérence russe dans les processus électoraux alors qu'ils ont manipulé comme des cochons l'élection aboutissant à la reconduite de Yeltsin. Vous avez dit inversion accusatoire. Mais en août 1999, les Occidentaux et Yeltsin ont commis une grave erreur en nommant au poste de Premier ministre un petit bonhomme insignifiant du nom de Vladimir Poutine. On est à l'été qui précède la démission de Yeltsin. Il n'en peut plus. Son action de chef d'État ne consiste plus qu'à sortir sporadiquement de sa chambre d'hôpital pour signer quelques décrets de limogeage. À l'annonce de la démission d'Yeltsin, le contraste est saisissant. On voit à la télévision un vieillard au bout du rouleau, remplacé par un homme d'à peine 45 ans, au regard d'acier, mais à l'élocution ferme et vive. Très vite, les Occidentaux vont déchanter. Poutine va restaurer un certain ordre économique et politique. Il va s'atteler à mettre au pas l'oligarchie et va lutter avec assez d'efficacité contre la corruption. La relative réussite économique qui s'ensuivra va permettre l'émergence d'une classe moyenne. Exactement au rebours de ce que l'Occident essaie de faire aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas en train de dire que tout est devenu rose en Russie. D'énormes inégalités ont persisté et subsistent. Mais le pays a incontestablement progressé malgré ce qu'en ont dit les prétendus spécialistes occidentaux. Souvenez-vous, on nous racontait que l'économie russe ne reposait que sur le pétrole, que le PIB russe était inférieur à celui de l'Espagne, j'en passe, et des meilleurs. C'est bizarre, hein, on ne dit pas la même chose du Qatar. Bref, passons, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, en revanche, c'est que les Occidentaux n'ont pas évolué d'un iota dans leur approche politique. Ils étaient pourtant prévenus. Chirac n'a-t-il pas dit qu'il fallait faire attention à ne pas humilier la Russie? Mais les Anglo-Saxons et leurs petits chiens ont continué en mode rien à foutre, même pas mal, et voilà. Ainsi, ils ont déroulé leur agenda international comme si de rien n'était. Coup d'État en Ukraine en 2004 pour placer Timoshenko, si j'ai bonne mémoire. Admission à l'OTAN de tous les pays d'Europe de l'Est en dépit de la parole donnée. Et ce, malgré les avertissements de Poutine, jusqu'à ce que ce dernier pose les limites, d'abord en Géorgie en 2008, puis en Crimée en 2014, et enfin avec l'opération militaire spéciale. En parallèle, la Russie a développé un narratif historique puissant qui ne parle pas ou peu aux Européens que nous sommes, mais qui réchauffe beaucoup le cœur des Russes. Alors, d'accord, il est un peu fabriqué à la pelleteuse, j'en conviens, mais c'est le leur. Il s'articule à coup de Seconde Guerre mondiale sur le thème. C'est grâce à la Russie et à ses 27 millions de morts que l'Europe a été libérée du nazisme. Quand on voit le résultat, mais là non plus, hein, c'est pas le sujet. Tout ça s'inscrit en tout cas dans un contexte où les Russes, à tort ou à raison, se sentent à la fois floués et menacés. Quelqu'un m'a dit une fois, au moins du temps de l'URSS, on nous respectait et on nous craignait. Donc si l'opinion publique a accueilli très favorablement la levée du joug soviétique, elle considère aujourd'hui la période soviétique avec une certaine nostalgie bienveillante. Je dirais même que la bienveillance va au-delà de la nostalgie. Parce qu'aujourd'hui, on croise en Russie des jeunes pro-soviétiques très virulents qui n'ont jamais connu l'URSS. Pire, on croise parmi les Européens de l'Ouest qui ne cachent pas leurs opinions très favorables à la Russie, des gens pour défendre l'Union soviétique. Donc, la nostalgie soviétique va bien au-delà de la personne de Poutine, qui ne fait en quelque sorte qu'accompagner l'opinion. Cependant, il convient de rappeler à tous ces gens-là que l'URSS, ce n'était pas seulement une idée de la stabilité. L'URSS, c'était aussi une répression sauvage contre toute pensée dissidente, l'interdiction généralisée de voyager à l'étranger, une forme perverse de précarité économique, une propagande aussi ridicule qu'agressive, une pratique religieuse très encadrée et souvent persécutée. La liste est longue et non exhaustive. Les gens ont également oublié l'ennui mortel de la vie soviétique. Alors certes, il existait des vies culturelles et des artistiques intéressantes, et les soviétiques, effectivement, étaient les artistes soviétiques étaient d'une imagination riche qui a beaucoup alimenté notamment le cinéma, hein, le cinéma soviétique est sans conteste un cinéma très intéressant et très méconnu parce que masqué par Hollywood. Mais il n'en reste pas moins que vivre en Union soviétique était pas drôle, parce que bon, c'est bien beau de viser sur le paradis perdu aux terrasses des cafés ou des pubs à Moscou, mais bien peu semblent se souvenir qu'en URSS, il n'y avait pas de café avec des terrasses, et que s'il y en avait eu, ils auraient probablement fermé à 23 heures. Les gens ont oublié également les files d'attente par 30 degrés en dessous de zéro pour 300 grammes de beurre. Les gens ont oublié la terreur stalinienne Bref, les gens ont oublié beaucoup de choses. Non, le système soviétique a failli politiquement, socialement et économiquement. C'est si vrai qu'en 1961, il a fallu construire un mur à Berlin pour empêcher les gens de quitter le paradis des ouvriers et des paysans. Les Russes ont tendance à occulter les pans de l'histoire qui les dérangent. Vous me direz, ils sont pas les seuls. Notre attitude envers eux nous interdit de leur donner des leçons. Car l'Occident est largement responsable de l'aversion qu'il a suscitée. Alors, puisqu'il me faut répondre à la question posée au début de cette émission, je dirais que Vladimir Poutine a bien résumé les choses. Lorsqu'il a dit que celui qui ne regrettait pas l'Union soviétique n'avait pas de cœur et que celui qui souhaitait sa restauration n'avait pas de tête. Je paraphrase un peu, bien sûr, mais il n'est jamais souhaitable de vouloir restaurer le passé. Et comment dire, ça l'est encore moins concernant le passé soviétique. Voilà, eh bien écoutez, si le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si le podcast ne vous a pas plu, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. Je vous promets que les peines n'excéderont pas 10 ans de camp. Voilà. Merci également de relayer ce travail. Si vous écoutez depuis YouTube, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Il paraît que bon, ça aide l'algorithme. Merci. Enfin, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Hein, vous abonner, c'est facile, c'est pas cher. Et un jour, ça pourrait me rapporter gros. L'important, en tout cas, c'est d'y croire. Allez, j'ai assez dit de bêtises. Je vous dis donc à dimanche prochain pour un prochain épisode de notre petite série. Salut !